VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a donné aux insurgés de la commune de Mugamba dans le sud, considéré par le pouvoir comme le dernier foyer de rébellion dans le pays, 15 jours pour se rendre, en les menaçant d'une répression semblable à celle pratiquée dans la province de Bujumbura rurale en 2010. Selon des sources sécuritaires, une nouvelle rébellion née de la contestation du troisième mandat de M. Nkurunziza s'est installée dans cette commune de la province de Bururi, à quelques 80 km au sud de Bujumbura, d'où elle mène des attaques dans les secteurs environnants. Politique en RDC, l'ambassadeur de la RDC à Washington, François Baloumouéné, a confirmé à VOA Afrique le décès mardi soir à Atlanta, aux États-Unis, de l'abbé Apollinaire Maloumalou, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante congolaise. Qui est en fait cet homme qui a organisé les premières élections démocratiques au Congo, Kinshasa? Eddy Sango a posé la question au rapporteur de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba.
Prêtre de diocèse de Butembo Beni, Maloumalou Apollinaire, avait quatre dimensions. C'était un homme d'État qui a travaillé dans les Starek, dans les Manileo pour la paix dans ce pays. Un intellectuel confirmé, un formateur parce qu'il a tracé un cursus à suivre pour que celui qui entre la première fois dans le domaine de l'élection puisse en avoir le cœur net. J'ai connu un homme d'État qui part dans la nuit pour vous lui poser un problème du travail par message, 5 minutes, 10 après, il vous donne la suite. J'ai connu celui qui s'est préoccupé et du pays et de son nord, grand nord natal, un monsieur qui était au four et au moulin pour l'intérêt de ce pays. Je connais Apollinaire, comme un rassembleur.
Vous avez été avec lui avant qu'il ne vienne aux États-Unis pour des soins. Comment avait-il vécu ces temps? On parle d'une maladie.
C'était un monsieur soucié de ce pays. Soucié parce que de son hôpital en Afrique du Sud, il est resté disponible quand l'état de santé lui permettait de résoudre les problèmes qui s'est passé au pays. À deux ou trois reprises, il a dit quitter son lit d'hôpital pour venir cheminer avec nous en vue de publier le calendrier du 12 février 2015. C'est quelqu'un qui pouvait s'oublier soi-même pour l'intérêt du pays.
Il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante en 2006, mais en fait, les élections qui ont été contestées avec des affrontements à Kinshasa, même sa personne parfois a mis en cause. Alors, comment est-ce qu'il a vécu cela?
Il demanda à quelqu'un de lui prouver que les élections de 2006 étaient mal organisées. Il expliquait les affrontements par d'autres critères et faits. Quand il y a eu les mauvais, les élections de 2011, les gens reconnaissaient que les élections de 2006 étaient bien faites et qu'il y a eu des troubles pour d'autres raisons.
Sa maladie, en fait, ce que nous apprenons aujourd'hui, semble avoir laissé un trou en RDC, si bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un calendrier électoral encore.
Ce n'est pas seulement en RDC. Les gens liaient le nom de Maloumalou à l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, FAYAC. Ils liaient ça au respect que les réseaux du savoir électoral de l'Afrique centrale. Les anglophones de SADC ne te diront pas contrairement parce que j'ai été le représentant au Conseil consultatif électoral en Afrique du Sud récemment. C'est une tête que l'Afrique et le monde a perdu en Jordanie. Tout le monde connaissait qui était Maloumalou et quel était son degré de connaissance en matière électorale.
Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Au Gabon, plusieurs syndicats et organisations de la société civile gabonaise proches de l'opposition ont annoncé aujourd'hui la création d'un mouvement citoyen pour permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles transparentes d'ici la fin de l'année. Le mouvement a été baptisé « Témoin actif » à l'initiative de la très contestataire Confédération syndicale dynamique unitaire, notamment présente dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Outre les syndicats, des associations étudiantes et plusieurs ONG de la société civile ont signé une charte en faveur d'élections transparentes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, le président du Ghana, John Dramani Mahama, en est au deuxième jour de sa visite officielle de 48 heures dans le pays. Abidjan-Yakra se dispute une zone pétrolière offshore. Claire Morin-Gibault.
John Dramani Mahama, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, respectivement deuxième et troisième économies d'Afrique de l'Ouest, ont un litige sur le tracé de leurs frontières maritimes. Plusieurs compagnies pétrolières ont annoncé ces dernières années d'importantes découvertes dans cette zone litigieuse. L'affaire a été portée par Abidjan devant le Tribunal international du droit de la mer, qui a ordonné l'année dernière à Accra de limiter son activité pétrolière dans la zone disputée en attendant la décision finale prévue en 2017. Un mois plus tard, les deux présidents s'étaient rencontrés, à la surprise générale, le 12 mai 2015 à Genève, grâce à la médiation du Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. À l'époque, il n'y a pas eu d'avancée notable.
Burkina Faso, la gendarmerie et la police burkinabé ont arrêté 6 personnes étrangères suspectées d'être impliquées dans les attentats de Ouagadougou. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces personnes auraient hébergé et facilité l'action des auteurs de l'attentat de Ouagadougou et seraient en liaison avec le cerveau des attentats, qui est toujours recherché, selon les autorités burkinabé. Rappelons que le 15 janvier, un commando de 3 assaillants ont attaqué l'hôtel Splendid, le café-restaurant Cappuccino, l'hôtel Yibi et le bar Taxi Bruce, situé sur la rue Kwame Nkrumah, la plus fréquentée de la capitale Ouagadougou. Ils ont tué 30 personnes, majoritairement des étrangers, et fait 71 blessés. Ces attaques ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger, NDA. C'est un défi politico-sécuritaire pour le président Muhammadu Buhari, qui effectue aujourd'hui sa première visite dans la région. Tatiana Mosso.
Les Vengeurs du Delta du Niger se décrivent eux-mêmes comme jeunes et d'un bon niveau d'éducation. Compte tenu de la complexité de leurs attaques sur les infrastructures pétrolières, il serait fort probable que certains de leurs membres soient des ex-combattants issus d'anciens groupes armés. Ils ont des plongeurs professionnels, donc un certain niveau de compétences et de connaissances dans le secteur pétrolier. Toutefois, l'organisation hiérarchique du groupe est moins connue, à l'exception d'un noyau dur composé de 100 à 150 personnes. Tout comme les anciens groupes rebelles, les NDA réclament une meilleure répartition des revenus pétroliers, une amnistie financière, le nettoyage du désastre écologique dans le Delta et des compensations pour les populations. Ils défendent également des idées séparatistes comme la création d'un État indépendant dans le sud-est du Nigeria. En 2009, le Nigeria avait signé un cessez-le-feu avec le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, le MEND, et avait mis en place un programme d'amnistie, de compensation financière et de formation professionnelle. Mais depuis la chute du baril du pétrole et la crise financière qu'elle a engendrée pour un des plus importants producteurs d'or noir du continent, le pouvoir peine à trouver de l'argent pour financer cet accord.
Corne de l'Afrique, en Somalie, au moins 10 personnes, dont 2 députés, ont été tuées aujourd'hui dans une attaque visant un hôtel de Mogadiscio, la capitale. Attentat mené quelques heures après l'annonce par les autorités somaliennes de la mort du cerveau présumé de l'attaque perpétrée par les Chebabs contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya. Attaque qui a fait 148 morts en 2015, dont 142 étudiants. L'attaque d'aujourd'hui a été elle aussi revendiquée par les Chebabs. Conflit en Syrie, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence demain sur la situation dans le pays. C'est pour décider si des largages d'aide humanitaire doivent être effectués après que le régime de Damas a autorisé des convois humanitaires à accéder à 2 villes assiégées. Selon l'ONU, 592 000 personnes vivent dans des villes assiégées, principalement par les forces du régime de Damas, et 4 millions sont dans des zones difficiles d'accès. La lutte contre le groupe État islamique en Irak, les quelques 50 000 civils pris au piège dans la ville irakienne de Fallujah n'ont aucun moyen de sortir en toute sécurité de cette localité totalement assiégée par les forces irakiennes et activement défendue par le groupe État islamique. Leur présence en grand nombre ralentit les opérations de reconquête entamées la semaine dernière par les forces gouvernementales irakiennes. C'est du moins ce qu'affirme le premier ministre irakien Haider Al-Abadi. Leur présence permet également à l'État islamique de les utiliser comme bouclier humain, selon l'ONU. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.